Eh oui, Caroline Perlé, toujours de retour en direct du musée de la Gaspésie en ce beau lundi. Et le musée, c'est bon de venir ici beau temps, mauvais temps. Souvent, les gens ils disent « Ah ben, il pleut, je vais aller au musée ». C'est une excellente idée, mais sachez qu'aujourd'hui, depuis que je suis arrivée ce matin, il y a certainement eu une cinquantaine de personnes qui sont passées. Et c'est comme ça tous les jours. Pour parler des expositions qu'il y a à voir au musée de la Gaspésie, j'ai en ma compagnie Alex Pelletier, qui est intervenant médiation culturelle et éducative. Bonjour, Alex.
Allô, Caro. Bonjour, tout le monde.
Très contente de t'avoir avec nous pour parler des expositions parce qu'il y en a qui sont rotatives, c'est-à-dire qui sont temporaires, qui vont avoir une certaine durée de vie, mais il y en a une permanente qui est vraiment, là, si les gens ne sont pas encore venus la voir, elle vaut vraiment le déplacement. Ça s'appelle la confluence des mondes. Parle-nous donc de cette expo permanente-là qui a été refaite et lancée il y a quelques années à peine, donc encore très, très moderne dans les technologies utilisées notamment.
Absolument, et aussi dans la pertinence de son contenu. C'est-à-dire qu'on est, c'est une excellente exposition qui est basée sur la science de l'histoire, mais aussi au niveau de dater des objets, des artefacts, des choses comme ça. Tout est bien expliqué. Dans le fond, c'est vraiment l'histoire de la création de la Gaspésie. De ses tout débuts, on recule 400 millions d'années en arrière.
Hey, c'est incroyable!
Absolument, ça fait un bout, là!
Oui! Je pense qu'on n'en a pas conscience comme tel, qu'on vient de loin, finalement,
ben oui.
À ce point-là. Là.
Absolument! Ouais. Quand on attend l'hôpital qu'on trouve ça long, c'est pas si long comparativement à 400 millions d'années. Mais non, on peut en apprendre énormément sur les premiers explorateurs, les Européens qui venaient nous rencontrer il y a plus de 1000 ans. On continue notre parcours avec la présence de Jacques Cartier, sa rencontre avec les membres des Premières Nations. La victoire des Anglais pendant la bataille des Plaines d'Abraham, la visite des entrepreneurs des îles anglo-normandes qui venaient établir des postes de pêche dans le coin. On fait vraiment tout le trajet de notre belle Gaspésie jusqu'à la fin des années 70-80 à peu près, où là on est vraiment dans l'ère moderne. Parle des événements d'aujourd'hui.
Oui. Et énormément d'objets, d'artefacts qui vraiment nous font... quand on parlait de 400 millions d'années, là, c'est incroyable que vous ayez ici même au musée tous ces objets-là. C'est fascinant. Ça, je pense que c'est une des grandes forces d'un musée, c'est qu'on revit l'histoire de notre région, mais au travers du temps. Est-ce que les gens, quand ils visitent l'exposition, en parlent beaucoup de cet aspect-là? Parce qu'on n'a jamais accès à des artefacts, là. Tu vas pas au magasin pour voir des artefacts. On s'entend, il faut aller dans un musée qui s'occupe de conserver le tout. Est-ce que ça a un pouvoir de fascination encore, beaucoup?
Oui, bien, ça dépend toujours du visiteur, parce qu'on visite une exposition... Il y a autant de façons de visiter une exposition que de visiteurs pour la visiter.
Ah oui,
je sais que les enfants sont très captivés par les vieux objets, que ce soit des artefacts, des antiquités, des choses comme ça. Notre premier artefact dans notre exposition, c'est un fossile qui a été trouvé à Miguasha. Donc, un fossile qui représente justement ces 400 millions d'années-là.
Ouais.
Tu sais, d'avoir eu des fouilles archéologiques et d'avoir réussi à trouver quelque chose d'aussi précieux, je pense que les plus vieux vont être un peu plus intéressés. Que ce soit de toutes les agrès de pêche des années fin 1700, début 1800, on a une magnifique collection qui recouvre un mur complet dans notre exposition. Ça nous permet de parler de Charles Robin, des compagnies de pêche comme la Le Boutillier, l'Aiman ou la Genvrin.
Oui.
On a énormément de documentation là-dessus parce que ça fait quand même partie des commerces les plus importants dans l'histoire de la planète. Ça et le sel. Mm. Puis, une grande partie de cet environnement-là qui est offert à nos visiteurs dans l'exposition à la Confluence des mondes.
Voilà. Et il n'y a pas juste cette exposition-là. Il y en a une qui porte sur René Lévesque qui a pris son envol là, au début du mois de juin. C'est fascinant parce que pour la première fois, j'ai l'impression qu'on voit l'enfant derrière l'enfant, le jeune adulte, derrière le grand politicien qu'on a connu, René Lévesque, et qui vient de la Gaspésie, d'ailleurs. Fait que c'est un retour pour René Lévesque en Gaspésie. Et ça, d'emblée, je pense que l'exposition, dès qu'on l'a lancée, a une force attractive très grande. René Lévesque, c'est encore un personnage tellement important pour les Québécois et les Québécoises.
Bien, c'est qu'il a été important dans plusieurs facettes de sa vie.
Exact.
On va va le découvrir comme jeune enfant, avec ses rêves. C'était un jeune garçon très énergique, un peu rebelle.
Mm-hmm.
Et là, on le découvre dans ses jeunes années en Gaspésie. Il a étudié sur le campus de Gaspé. Il est devenu journaliste.
Mm-hmm.
Et c'est très, très rare qu'on peut parler de quelqu'un qui a une carrière journalistique aussi importante que sa carrière politique.
Exact.
Et comme rockstar de la politique au Québec, c'est fascinant de voir qu'on peut avoir plusieurs vies professionnelles dans une même vie.
Ouais.
Donc, moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé parce qu'on connaît bien le personnage. Tu sais, je vais avoir 40 ans, donc c'est un personnage qu'on étudiait quand j'étais au secondaire.
Mm-hmm.
Mais de le découvrir sous cette facette-là, avec une exposition qui est franchement très, très belle.
Mm.
On parle d'objets et d'artefacts dans notre première exposition, mais celle-ci est remplie à ras-bord. Merci beaucoup au Musée de la civilisation qui a produit cette exposition-là. C'est un travail conjoint avec eux.
Québec, oui,
ouais.
Effectivement. Et très teinté d'une collection d'objets privés. Ça, je pense que c'est une des grandes forces de l'exposition sur René Lévesque, c'est-à-dire des objets qui lui ont appartenu.
Mm-hmm.
Ou que des gens avaient chez eux. Et je pense que, en tout cas, ma grande fascination, je ne sais pas si tu la partages, mais c'est de voir la main d'écriture et les lettres que, par exemple, René Lévesque écrivait à son père, à des gens qu'il connaissait quand il était non seulement aux études ou encore lorsqu'il couvrait la guerre pour les États-Unis comme correspondant. C'est fascinant de voir à quel point cet homme-là... était en quelque sorte un créatif depuis son plus jeune âge. Là. Il avait une belle, non seulement une belle calligraphie, mais avait un propos très jeune.
Ben c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a été capable de fonder un parti politique avec ses alliés,
mm-hmm.
mais dans le même élan créatif, au cégep, a pu créer une pièce de théâtre avec un de ses amis.
Voilà.
Donc, tu sais, il ratissait extrêmement large.
Ouais.
C'était un bon vivant, un passionné, un homme avec énormément de caractère, ce qui pouvait le rendre très attachant pour certains puis un peu tannant pour d'autres. Mais, tu sais, dans les années 70 et 80, on avait une histoire politique extrêmement vivante. Là, je ne veux pas dire que ce n'est pas ça qui se passe aujourd'hui, mais on est capable, avec notre regard de musée, de voir que ça brassait et que ce personnage-là, René Lévesque, était justement quelqu'un qui brassait la cage pas mal.
Exactement.
Et de le découvrir sous cette forme-là, moi, je trouve ça fascinant parce qu'on peut prendre le temps qu'on veut. Les éclairages sont très tamisés pour protéger ces artefacts-là parce que, comme tu l'as dit, ce ne sont pas nécessairement des... on ne recrée pas certains objets. Ça fait partie des collections, que ce soit des récepteurs radio pendant le temps de la guerre, chose qu'ils utilisaient pour essayer de capter les messages ennemis.
Voilà.
C'est un vrai bidule.
C'est fascinant. Ouais. En tout cas, cette exposition-là vaut également le détour. Et en terminant rapidement, Alex, quand on entre dans le musée, on a l'impression qu'il y a des voiles qui nous accueillent et qui présentent cette exposition-là, Le Grand Large, qui, elle aussi, est très fascinante. On découvre la Gaspésie, mais au travers 15 navires cette fois-ci, 15 bateaux différents.
Tu sais, la Gaspésie dit le fleuve Saint-Laurent, mais le golfe, c'est le premier accès à la route vers l'Europe.
Exact.
C'est ça. Donc, c'est fascinant de voir comment on se déplaçait, comment on se déplace aujourd'hui, quels outils on pouvait utiliser quand on était pêcheur. Je veux te parler, bien sûr, de notre Gaspésienne numéro 20, qui est une icône très importante pour nous.
Oui.
Elle fait partie de cette exposition-là, Le Grand Large. Une exposition qui mélange panneaux d'interprétation, mais aussi nouvelles technologies. Donc, on peut découvrir ces bateaux-là au travers d'un paquet de trucs. Là, je ne veux pas voler de punch.
On va parler de réalité virtuelle tout à l'heure, à fin d'émission. Mais effectivement, la Gaspésienne numéro 20, on peut la découvrir sous plein de facettes ici au musée.
Réalité virtuelle, réalité tout court aussi,
oui.
Parce que la Gaspésienne est stationnée devant notre beau musée.
Oui.
Puis, pour nous, c'est une icône, mais c'est aussi un des artefacts qu'on a à cœur parce que c'est la communauté qui nous a aidés à avoir une Gaspésienne aussi bien restaurée. On le sait, dans les trois dernières années, il y a eu des papyrus avaries.
Oui, ouais. Il y a eu une partie de la Gaspésienne numéro 20 qui a notamment été incendiée par inadvertance, on s'entend.
Oui,
mais c'était vraiment un gros travail de restauration pour lequel là, il y a des menuisiers, des charpentiers navals, maritimes, qui ont passé là, des mois l'année dernière ici même pour la restaurer. Et là, on peut voir le résultat cette année.
Ben oui, exactement. Le bon mot, c'est la restauration. C'est pas seulement de la réparation, parce qu'on doit aller très, très loin dans nos démarches. Le bon type de bois, couper ce bois-là avec les bons outils pour faire en sorte que ça respecte toute la personnalité de l'artefact. Et juste pour vous dire, l'incendie, c'était en novembre 2023. La restauration s'est terminée en novembre 2024 et on est encore en train de placer cette Gaspésienne-là pour finalement peut-être la faire visiter dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Voilà. Mais déjà, on peut l'admirer, on peut peut-être pas embarquer dessus encore, mais on la voit, là, elle est à l'entrée du musée et il y a plein de panneaux d'interprétation qui nous racontent l'histoire, notamment des Gaspésiennes.
Ça fait un fond de photo, paysage de photo excellent, les couleurs sont magnifiques. Je t'invite à venir voir ça.
C'est tellement vrai. Alex Pelletier, merci beaucoup. Je rappelle que tu es intervenant en médiation culturelle et éducative au Musée de la Gaspésie. Ça a été très intéressant d'en savoir un peu plus et de donner le goût aux gens de venir visiter ces expositions-là qu'on retrouve ici même. On va entendre une chanson coup de cœur d'une de tes collègues, Marion Bernatché. C'est de Essanabi. Je ne peux pas te dire que je connais beaucoup. Je vais découvrir ça en même temps que vous avec la chanson « Gone, Baby, Gone ».